Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné numéro 32? Lié par la peur, libéré par l'amour. Brian Kozurek, le 5 avril 2015. Romains 8, 8. Or ceux qui vivent selon le moi Néhémi sauraient plaire à Dieu. 9. Pour vous. Vous Néhémi vivez pas selon le moi, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, cette déclaration doit secouer chacun de nous au plus profond de lui-même, parce que Paul fait une déclaration claire et nette ici, que si vous vivez pour le moi, cela montre quel genre d'esprit contrôle votre vie. Ce n'est pas l'Esprit éternel de Dieu, mais votre propre esprit qui est né dans le péché, formé en vous par l'iniquité, et venu en ce monde proférant et manifestant des mensonges. Puis l'apôtre Paul vous enfonce encore plus en ajoutant. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est aimé, il lui appartient pas. D'abord, il vous fait savoir que si vous n'êtes pas mort au moi, et si vous vivez toujours pour le moi, alors vous n'êtes pas encore né de l'Esprit de Dieu. Puis il vous dit, et si vous n'êtes pas né de nouveau et rempli de son Esprit, alors vous n'êtes aimé, il lui appartenez pas. Maintenant, après toutes ces études que nous avons eues au sujet du sixième sceau et ce qui arrive à ceux qui passeront par la période de tribulation, vous devez déjà savoir si vous êtes rempli du Saint-Esprit ou pas. Trop de gens jouent à la roulette russe avec leurs âmes et ils n'aiment, ils sont pas sûrs de ce remplissage, et s'estèrent ainsi qu'ils se retrouvent dans une position très précaire en cette heure, car celui qui sait faire ce qui estère juste et n'aime, le fait pas, cela lui est imputé comme iniquité. Il se peut que ceci soit votre dernier avertissement à mourir au moi pour que Dieu vous remplisse. Et si vous refusez l'appel qu'il adresse à votre âme, il n'y reste plus que le jugement. 10. Si Christ estère en vous le corps, il estère vrai, estère mort à cause du péché, mais l'Esprit estère vie à cause de la justice. 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 12. Ainsi donc, frères, nous n'y sommes point redevables au moi, pour vivre selon le moi. 13. Si vous vivez selon le moi, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, voici où je veux en venir ce matin. 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte. Mais, vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba. Père. Vous savez que l'esprit d'adoption estère un esprit de libération, parce qu'il vous rend vivant en Christ. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire, parce que tout ce que vous voulez faire, c'est estère d'être agréable à votre Père. Mais l'esprit de servitude estère un tout autre esprit. C'est estère un esprit religieux, et il n'y vient pas de Dieu, il vient de l'enfer. C'est estère Satan qui souhaite lier les gens à lui et à son système organisationnel. L'amour libère, et la haine lie. Ainsi, nous allons examiner ces deux esprits ce matin, pour voir quel esprit vous contrôle. Avez-vous été rendu vivant en Christ Jésus ou êtes-vous asservi à une doctrine ou un credo? Est-ce ce que vos croyances vous libèrent-elles ou vous lient-elles? Vous voyez, l'amour lie et la peur lie, mais l'amour lie deux choses ensemble d'une manière qui vous libère de toute autre chose, alors que la peur lie aussi mais vous amène à vous soumettre par des représailles ou des punitions. Et selon l'esprit que vous avez reçu, votre vie le reflétera visiblement et extérieurement aux autres. Car l'apôtre Paul, après avoir fait cette déclaration qu'on n'a pas reçu un esprit de crainte, mais d'adoption, il dit alors au verset 16. C'est l'esprit que nous savons être l'esprit de Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Ainsi, L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous savons que l'Esprit de Dieu témoigne parce qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Ainsi, il est très évident à ceux du dehors, en observant votre vie, de savoir si vous êtes lié par l'amour ou si vous êtes lié par la peur. Être lié par l'amour régénère, c'est revigorant, c'est vivant, mais être lié par la peur, c'est inconfortable et très déprimant. La peur laisse un sentiment de découragement et de désespoir à ceux qui sont liés par elle. Et c'est ce que vous feront les credos, les doctrines, l'organisation, les dénominations et le nicolaïsme. Ainsi, frère Branham nous pose la question, comment entrez-vous en Christ? Et au paragraphe 156 il dit, comment est-ce que nous entrons en Christ? Mes amis, par un seul credo nous sommes tous entrés? Par adhésion? Non. Vous savez ce qu'est un credo? C'est un système de croyance. En d'autres termes, c'est une doctrine. Ce que vous croyez, c'est ce que vous enseignez. Donc, frère Branham nous dit essentiellement, comment est-ce que nous entrons en Christ? Mes amis, par un seul credo nous sommes tous entrés, par adhésion? Non. Mais il me semble que beaucoup de gens le croient. Ils croient que vous devez avoir la bonne doctrine pour être unis à Christ, et ils ont mal acquis placé la preuve de la nouvelle naissance qu'exprime frère Branham dans Christ Esther le mystère de Dieu révélé 63-07-28-233. Regardez. Christ en vous fait de lui le centre de la vie de la révélation. La vie de Christ en vous fait de lui le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de l'ensemble, voyez, de ce que Dieu essaie de faire. 234 Alors, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Vous pourriez dire, tirez bien, frère Branham, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? C'est la révélation de Jésus-Christ, qui vous est donnée, à vous, personnellement. Amen. Voyez, ce n'est pas le fait que vous ayez adhéré à une église, que vous ayez donné une poignée de main, que vous ayez fait quelque chose de différent, que vous ayez récité un credo, que vous ayez promis de vivre en accord avec un code de règles. Mais c'est Christ, la Bible et l'Esther la parole, qui vous a été révélée, à vous. Et peu importe ce qui arrive, c'est Christ, pasteur, prêtre, quoi que ce soit. C'est Christ en vous. Maintenant, dans la citation suivante frère Branham rend très évident qu'il y a une différence entre avoir l'expérience de recevoir le Saint-Esprit et la preuve tangible que votre expérience est authentique. Vous voyez, l'expérience et la preuve sont deux mots différents et elles signifient deux choses différentes. Le mot expérience signifie la participation active à des événements ou des activités menant à l'accumulation de la connaissance. Un événement ou une série d'événements auxquels on a pris part ou vécu. Tandis que le mot preuve signifie, une chose ou des choses utiles pour tirer une conclusion ou prononcer un jugement, clairement indiqué, illustré ou prouvé. Alors, en revenant au paragraphe 156 de pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, frère Branham dit, nous sommes tous entrés, tirés par une seule poignée de main? Non. Nous sommes tous entrés, par le baptême dans une seule eau? Non. Ou par une seule dénomination nous sommes tous entrés par dénomination? Non. Mais, par, I Corinthiens 12:13, par un seul esprit, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, nous avons tous, les méthodistes, les baptistes, les luthériens, les presbytériens, marchant dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de toute iniquité. Par un seul esprit nous avons tous été baptisés, pour former un seul corps, et nous sommes devenus participants de sa grâce. Maintenant, écoutez, frère Branham a fait tout le récital de ce que saint Esther pas pour nous faire savoir que toutes nos doctrines et tous nos ismonémies sont pas la naissance du Saint-Esprit. Il n'Esther pas question de ce que vous savez, il a toujours été question de qui vous connaissez, parce que le connaître, c'est Esther la vie. C'est Esther la vie. Sester ça la réalité à propos de la vie. Certains hommes les plus instruits sont les plus pauvres et les plus stupides que je connaisse. Et plusieurs des milliardaires américains soit n'ont jamais fait l'université, soit ont abandonné leurs études universitaires, comme Sam Walton, Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney, Larry Ellison, le fondateur d'Oracle, Henry Ford et Thomas Edison, aucun d'eux n'a reçu de diplôme universitaire. Donc, il n'est pas question de ce que vous savez, il est question de qui vous connaissez, et le connaître lui, c'est la vie nous dit la Bible. Maintenant lisons le paragraphe 157 vous Néhémie, pouvez pas aller en jugement. Celui qui écoute mes paroles, et qui croit. Nul Néhémie peut croire avant d'avoir le Saint-Esprit. Et qui croit à celui qui m'a envoyé? Quand le Saint-Esprit a témoigné de sa résurrection. À la vie éternelle. Et Néhémie viendra point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Quoi? Vous avez passé votre jugement quand vous êtes passé et que vous avez dit, je Néhémie vaut rien. Et ce que j'ai appris Néhémie vaut rien. Seigneur, entre en moi, et prends-moi, et conduis-moi, Seigneur. Peu m'importe ce que dit ce monde en folie. Conduis-moi, Seigneur, par ton esprit. Alors, vous avez jugé. Jugez-vous vous-même fou pour Christ, et, dans sa justice, ce jour-là nous nous tiendrons immortels, à sa ressemblance. 158 Une seule manière. Comment? Par un seul esprit nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Et quand vous êtes dans ce corps, le jugement a déjà jugé ce corps, et vous l'avez accepté comme victime propitiatoire pour votre péché. Vous dites, tirez j'ai fait ça. Frère Branham. Dans ce cas, si le Saint-Esprit est revenu et vous a donné un sceau comme signe, cet esprit vous fait entrer dans le corps de Christ. Vous faites demi-tour, et vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous êtes passé de la mort à la vie. Les choses anciennes sont passées. Et vous êtes nouveau en Christ. Amen. 159 Oh, s'il vous plaît. Laissez-moi vous convaincre, ma sœur ou mon frère chrétien. Néhémie laissez pas ce réveil, passer à côté de vous. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est Esther? L'Esprit de Dieu. À quoi sert-il? À vous conduire, vous guider, vous remplir, vous sanctifier, vous appeler à sortir, pour entrer dans l'Église. Qu'est-ce qu'une Église? Que veut dire le mot Église? Appeler à sortir, séparer. Oh, comme je pourrais tirer une prédication de ça maintenant même. Appeler à sortir, séparer, des étrangers, loin du monde, pèlerins et étrangers, professant que nous n'avons ici aucune ville terrestre où nous désirions vivre. Oh, là là. Romains 8:14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, remarquez Paul parle des fils de Dieu. Il n'est émis par le pas des enfants de Dieu ici, mais des fils. Nous savons que l'apôtre Paul nous a dit que nous sommes nés de nouveau. Ou sommes nés dans la famille. Nous sommes des enfants de Dieu. Puis après la nouvelle naissance ou le baptême du Saint-Esprit, nous recevons le gage de notre héritage, qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est alors que nous sommes revêtus de ce que Paul appelle l'esprit d'adoption comme nous le voyons au prochain verset. Et il parle de ceux qui ont reçu cet esprit d'adoption comme des fils, et il parle des fils comme n'ayant pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit qui les identifiera avec leur Père céleste. Maintenant, il y a des séries d'événements dans la vie du croyant où il commence comme un enfant de Dieu, puis grandit en un fils, et finalement en un héritier, ou un co-héritier avec Christ. Maintenant, comme enfant il a encore de la peur, il pleure quand il a faim, parce qu'il n'aime et comprend pas les tiraillements de la faim. Il pleure quand il a soif, parce qu'il n'aime et comprend pas la soif et comment boire par lui-même. Il pleure quand il a sali ses couches, parce qu'il n'aime et sait pas se changer. Vous voyez, il est encore au niveau où il manque de compréhension et n'a donc pas confiance dans ses propres facultés à manger, boire et changer sa couche. Il est un enfant strictement dépendant des autres pour se nourrir, boire, échanger ses couches, et s'abriter, etc. Mais quand cet enfant commence à grandir, il atteint un état où il acquiert la connaissance quant à la façon de se nourrir, comment boire, comment utiliser une toilette, et comme il grandit en sagesse, il comprend aussi qu'il y a d'autres personnes dans la famille en dehors de lui. C'est quand il commence à aller d'un enfant et à entrer dans la condition de fils. Comme je l'ai dit avant, les personnes les plus égocentriques sont les petits-enfants, parce que quand ils ont faim, il n'est que question d'eux. Quand ils ont soif, il n'est que question d'eux. Quand ils salissent leurs pantalons, ils n'estèrent que question d'eux, et ils n'aiment ni savent pas ce qu'estèrent la patience. Ils veulent ce qu'ils veulent, et ils le veulent tout de suite. C'estèrent l'enfant de la famille, et l'enfant de Dieu, très égocentrique, très moi d'abord. Mais comme cet enfant commence à grandir, la petite fille voit maman s'occuper de bébé, elle vient l'aider à s'occuper de bébé, à préparer les repas de la famille, à la cuisiner, à faire la lessive et à nettoyer la maison. Le jeune garçon sort avec son père et commence à travailler avec lui en faisant les corvées du jardin, nettoyant dehors, s'occupant et réparant les choses dont la famille a besoin. 1 Corinthiens 13, 9 Paul dit, « Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, dix mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 12 Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, à ce stade vous entrez dans la condition de fils. Et comme frère Branham dit, là où les pentecôtistes ont mal à qui tourner, c'est quand ils ont pensé que de naître dans la famille suffisait, ça suffisait. Mais il a dit que vous devez être le bon genre de fils si vous devez recevoir l'héritage. Dans Écoutez le 57-0807-14 de frère Branham dit, maintenant, quand un fils naissait dans la famille, il était un fils à la naissance. Et c'est là où vous les pentecôtistes avez sauté par-dessus la barrière. Vous avez pensé que quand vous êtes né de nouveau ça règle la question. Ce n'était que le début. C'est exact. Vous êtes un fils, sûrement, quand vous naissez. Mais quand ce fils est né, Il n'était pas encore héritier de toutes les choses. Il a dû passer par des tests et des épreuves pour découvrir s'il était le bon genre de fils pour hériter de toutes les choses. Et écoutez, la parole de Dieu dit que chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé et châtié, formé en tant qu'enfant, avant qu'il n'ait émis puisse être adopté dans la famille. Et dans Sermon les noms blasphématoires 62-1104 mètres 134 vous m'avez entendu. Prêchez. Écoutez-le. Ce sermon, il y a environ un an, et qui est-il devenu si populaire, écoutez-le. Le placement d'un fils dans Éphésiens 1, 5 également, Dieu nous a prédestinés à l'adoption des fils. 135 voyez, une famille. Quand un fils est né dans cette famille, alors c'est un fils. Mais ce fils avait des tuteurs pour l'élever. Et si ce fils n'arrivait jamais à être la vraie sorte de fils, il n'est mis devenait jamais héritier. Mais s'il était la vraie sorte de fils, et le fils qui obéira à son père, alors ce fils était adopté ou placé positionnellement. Il devenait héritier de ce que le père avait. Écoutez le 57-03-22-43 nous sommes enfants de Dieu, mais nous perdons notre héritage par notre conduite, les choses que nous faisons, et les choses que nous permettons d'être faites, et la manière dont nous vivons et agissons et ainsi de suite. Nous vivons à des millions de kilomètres au-dessous de notre privilège. Et alors quelqu'un peut voir l'œuvre de Dieu être faite, et le docteur, tel et tel. Le docteur, Jones dit, Sester ceci, et l'autre docteur dit, Sester cela. Et nous le croyons au lieu de regarder dans la parole. La parole confirme ce qu'Esther la nourriture de brebis. Elle vient de la parole. Et si ce n'est-ce pas ainsi que les églises sont devenues? Au lieu de chercher à savoir ce qu'en dit la parole de Dieu, ils regardent à ce qu'en dit leur église, et ils meurent sur le champ. Écoutez le 57-0519-2-20 certains d'entre nous, ministres, nous devrions avoir honte de nous-mêmes, alors que nous gardons notre congrégation bien en dessous de leurs privilèges. Toute l'église chrétienne aujourd'hui vit à des milliers de kilomètres en dessous du privilège qui leur a été donné par Dieu, en raison du fait qu'ils sont à moitié endormis, comme mornes. Prenez la promesse. Croyez-la. Dieu l'a dit. Ça règle la question pour toujours. Peu importe combien de temps cela prend pour se matérialiser, le temps n'est mis signifie rien pour Dieu. C'est sa parole que nous prenons et croyons. Abraham a attendu, 25 ans la venue de cet enfant. Mais il est arrivé. Certainement. Nous le croyons, parce que Dieu l'a dit. Maintenant, comme il a dit, nous vivons tellement en dessous de nos privilèges comme fils et filles de Dieu. Au lieu que nous soyons la puissante église de Dieu, nous marchons la queue entre les jambes comme des chiots battus. Ta maison croit au Seigneur. Suivi de questions 61-08-08-33 comme je l'ai dit l'autre jour. Quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas une partie faible et une autre forte. Si vous avez une petite ombre de Dieu en vous, juste la plus petite portion de Dieu, alors vous avez toute la puissance. Vous avez assez de puissance en vous pour créer un monde et aller y vivre. Mais, bien entendu, cette puissance est contrôlée par la foi. Si ce n'était pas le cas, nous aurions chacun un monde là-bas, où nous vivrions. Mais si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous avez la puissance de Dieu en vous. Voyez-vous? Et dans son sermon, l'eau toujours présente du rocher 61-0723 m'a dit, 147. Et si vous aviez suffisamment de Dieu en vous à tel point que cela soit à peine une ombre, c'est-à-dire suffisamment de puissance pour créer une nouvelle terre, c'est-à-dire suffisamment de puissance pour créer une nouvelle lune et un nouveau système. C'est Dieu, et s'estère fort. Et en ce moment même dans chaque croyant ici, il y a la vie éternelle, ce qui estère l'Esprit de Dieu en vous. Suffisamment de puissance qui ressuscitera les morts, qui guérira les malades, qui placera les orbites dans des conditions. Mais vous êtes, s'estère contrôlé par une loi, cet Esprit qui estère en vous. Vous êtes fils et filles de Dieu. Le même Esprit que vous avez en vous, vous ressuscitera au jour de la résurrection. Et non seulement cela, mais Paul dit dans Romains 8:11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et rendre la vie signifie vivifier. Vivifier à quoi? Vivifier à la parole de Dieu de l'heure dans laquelle vous vivez. Vivifier à la puissance de Dieu pour faire de sa parole une réalité pour vous et en vous. Donc, si celui qui a ressuscité Jésus vit en vous alors qui vit en vous? C'est-ce le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts? N'est-ce pas? Et cela signifie qu'il vit en vous et vous êtes déjà passé de la mort à la vie. Mais vous devez d'abord mourir sinon un ennemi pourra pas vous ressusciter. Comme frère Branham dit dans Christ Esther le mystère de Dieu révélé 63-07-28-233 Regardez, Christ en vous fait de lui le centre de la vie de la révélation. La vie de Christ en vous fait de lui le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de l'ensemble. Voyez, de ce que Dieu essaie de faire. 234 Alors, la nouvelle naissance, qu'est-ce ce que c'est-ce? Vous pourriez dire, tirez bien, frère Branham, la nouvelle naissance, qu'est-ce ce que c'est-ce? C'est-ce la révélation de Jésus-Christ, qui vous est donnée, à vous, personnellement. Amen. Voyez, ce n'est pas le fait que vous ayez adhéré à une église, que vous ayez donné une poignée de main, que vous ayez fait quelque chose de différent, que vous ayez récité un credo, que vous ayez promis de vivre en accord avec un code de règles. Mais c'est Christ, la Bible il est la parole, qui vous a été révélée, à vous. Et peu importe ce qui arrive, c'est Christ, pasteur, prêtre, quoi que ce soit. C'est Christ en vous. Les citernes crevassées 65-01-2-3-77 Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ce soit une communion, et pas une communion autour d'un credo, mais une communion en Christ par la puissance de sa résurrection. Voilà ce qui produit la vie, ce qui produit la naissance. 78 Et avant qu'une naissance puisse avoir lieu, nous nous rendons compte qu'il doit y avoir une mort, avant la naissance. Et une naissance, c'est un gâchis, peu importe le genre de naissance. Que ce soit dans une porcherie, ou n'importe où, c'est un gâchis. Et il en est de même de la nouvelle naissance. Cela vous fait faire des choses que vous n'aimiez, penseriez pas faire normalement. Mais quand vous êtes prêt à mourir à vous-même, alors vous naissez de nouveau en étant une nouvelle création en Jésus-Christ. Alors les choses s'ouvrent, et la vie paraît tout autre à vos yeux, parce que vous avez accepté la personne de Jésus-Christ, et non pas une théorie ou un credo. 79 Et même pour cette parole écrite, elle doit être vivifiée par le Saint-Esprit. Peu importe combien vous avez de théologie, elle reste une lettre morte. Je pourrais avoir une poignée de grains de blé, tant qu'ils n'entrent pas dans le processus qui leur permet d'être vivifiés. Ce blé n'y vivra pas. Et vous pouvez avoir un doctorat en philosophie, en droit, tout ce que vous voulez, mais tant que le Saint-Esprit n'est mis vient pas là-dessus, pour vous le vivifier. en tant qu'expérience personnelle avec Dieu, alors le blé Néhémie ne sert à rien. Votre instruction Esther en vain. Dans son sermon, Les eaux de séparation 55-01-2, un frère Branham dit, il vous faut absolument accepter la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et pas seulement cela, mais il vous faut mourir à vous-même. Il vous faut mourir à chaque pensée charnelle, afin que vous puissiez recevoir la pensée de Christ et marcher désormais, non pas par vous-même, mais suivant sa pensée, la pensée de Christ en vous. C'est l'unique moyen pour vous de pouvoir rester en vie. C'est l'unique moyen pour moi de rester en vie. C'est tout ce par quoi je vis. C'est par le Saint-Esprit. Le chemin du retour 62-1123-41. Il faut la mort pour produire la vie. Vous devez mourir à votre propre pensée. Vous devez mourir à votre propre théologie. Vous devez mourir à votre moi, à vos propres voies humaines. Vous devez être régénéré, une nouvelle créature, une nouvelle création. Avant que vous puissiez être, vous Néhémie pouvez pas être les deux en même temps. Vous devez mourir à l'un afin de naître dans l'autre. Cela amène un gâchis, et cela cause aussi un gâchis. Mais vous avez une nouvelle vie. Quelle différence Esther ce que ça fait? Vous devez le faire. Vous devez naître de nouveau 61-1231 mètres 64 maintenant. La manière de s'approcher de cette naissance. Il y a une manière de s'en approcher. Et s'approcher cette naissance, vous devez passer par un processus, de la même manière que tout ce qui vit. Tout ce qui revient à la vie doit d'abord mourir. Vous Néhémie pouvez pas conserver le même esprit. Vous Néhémie pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Vous Néhémie pouvez pas conserver les mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme lui était mort. Vous devez mourir sur son autel, comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir. Mourir à vos propres pensées, pour renaître avec ses pensées. Ayant vous la pensée qui était en Christ. Vous devez avoir ses pensées. Et maintenant, frères et sœurs, laissez-moi, vous dire ceci au mieux de ma connaissance, comment pouvez-vous avoir ses pensées et renier sa parole? Et prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau? Posez-vous simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous Néhémie le pouvez pas. Si vous êtes né de nouveau, vous avez ces pensées. Si vous avez la pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. Cela signifie que vous êtes une nouvelle création Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi 62-062-41 vous dites? Eh bien, d'autres font ceci. Eh bien, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes mort, et votre vie est cachée en Dieu par Christ et scellée par le Saint-Esprit. Vous voyez, vous n'avez pas essayé la toxine. C'est simplement parce que les gens n'y veulent pas l'essayer. Maintenant, vous devez mourir. Vous devez pourrir. C'est le problème avec les gens. Au lieu d'aller à l'hôtel pour avoir un certain genre de sensation, de sauter, et de serrer la main du prédicateur, de sortir avec un certain genre de dogme ou credo et de le réciter, et de dire, je suis membre de tel et tel. Je suis membre de tel et tel. Êtes-vous chrétien? Je suis tel et tel. Un chrétien doit être comme Christ. Être comme Christ, c'est croire la parole. Si vous Néhémie croyez pas la parole, alors vous Néhémie pouvez pas être comme Christ. Comment pouvez-vous vous dire être chrétien et nier la moitié de la parole? Si le Saint-Esprit a écrit la parole, le Saint-Esprit confirme la parole. Et le Saint-Esprit est la parole. et la parole demeurant en vous, apporte les promesses de Dieu à chaque croyant. Messieurs, nous voudrions voir Jésus 61-1224, 164. Un véritable disciple dit, vous devez mourir. Comment est-ce que je sais que je suis mort? Quand vous reconnaissez que toute cette parole est la vérité, alors, la parole commence à vivre en vous. 165. Eh bien, dites-vous, mais notre Église enseigne. Peu m'importe ce que votre Église enseigne, c'est ce que la Bible dit qui compte. Question et réponse COD 54-0103-140. Vous devez vous repentir et mourir journellement pour vivre en Jésus-Christ. Donc, chaque jour, vous devez mourir chaque jour pour vivre en Jésus-Christ. Un plus grand que Salomon ici 62-06-28-21. Si vous voulez être un chrétien, naissez de nouveau. Mourrez à votre moi, et commencez à partir du bas et monter. Je crois que vous devez mourir. Vous êtes tellement mort au point que vous n'êtes plus vous-même. C'est tout. Et puis, soyez né de nouveau, une nouvelle créature en Christ, construit complètement depuis le fond même de votre âme, un vrai chrétien né de nouveau. Alors le Saint-Esprit, c'est quel genre de charge à mettre en vous? 1 Son Confus 61-0315-70. L'Église signifie ceux qui ont été appelés hors d'eux, ceux qui sont séparés. 71 et deux personnes Néhémie peuvent vivre en vous en même temps. Vous devez mourir aux choses du monde pour servir Dieu. Vous Néhémie pouvez pas aimer Dieu et Mammon en même temps. Et aussi longtemps que l'amour du monde serait dans le cœur du croyant, il s'exclut et se prive des privilèges que Dieu lui a donnés. 72 Dieu Néhémie veut pas que vous soyez sans privilège. Il veut que vous disposiez de chaque privilège pour lequel il est mort. Il veut que vous jouissiez de chaque privilège qu'il a donné à l'Église. Ils sont vôtres. Question et réponse 59-1223-142. Il faut que vous mouriez et que vous naissiez. Et vous Néhémie pouvez pas avoir de naissance sans avoir une crucifixion. Vous Néhémie pouvez pas avoir de résurrection. Il faut que vous soyez crucifié aux choses du monde pour pouvoir ressusciter en Christ. Les eaux de séparation 55-012-27. Tant que vous avez vos propres pensées, vos propres voix, vos voix sont contraires aux voix de Dieu. Vous Néhémie pouvez pas être en ordre tout en gardant vos propres pensées, car il vous faut mourir à vos propres pensées. Savez-vous cela? Vos pensées, tant que vous les considérez, vous considérez cela du point de vue naturel. Vous dites, oh, eh bien, cela Néhémie peut pas arriver. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est même pas censé de penser à pareille chose. Tant que vous faites cela, vous demeurerez donc dans la même condition où vous êtes. Espace vide sur la bande, NDE, atteignez le point où vous Néhémie, pouvez plus penser à vos voix. Mais entrez en Christ et ayez ces pensées. Prenez ces paroles. Alors les choses commenceront à apparaître différemment. En effet, vous êtes mort et votre vie est cachée en Dieu par Christ et scellée par le Saint-Esprit. Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non pas selon la chair, selon ce que la chair dit, mais qui marchent selon l'Esprit. Romains 8.14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Maintenant, Paul dit que cet esprit de crainte n'est pas de Dieu. Il dit que l'esprit que Dieu nous donne est l'esprit qui nous identifie au Père. Mais la peur est un mot de quatre lettres et Dieu le déteste. Il y a bien trop de peur parmi les gens, dans ce message et ce monnaie ne devrait même pas être nommé parmi nous. Puisque nous lisons aussi au verset 28 que nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Par conséquent, si toutes choses doivent concourir à notre bien, alors comment pouvons-nous demeurer dans la peur? Par conséquent, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Or nous servons un Dieu puissant et grand. Mes frères et sœurs, et des hommes mesquins essaient d'utiliser la peur comme instrument pour contrôler les gens, pour que les gens aient peur d'eux, je n'arrive pas à le comprendre. Dieu lui-même n'utilise même pas la peur pour vous forcer à l'aimer, et à lui obéir. La Bible dit, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Esther 1 Jean 4h19 Esther ce que ma Bible enseigne. Et j'espère que quand vous lisez votre Bible vous lisez la même chose. Mais le problème que nous avons, c'est que trop de gens Néhémie savent pas lire leur Bible. Mes frères, cette Bible, c'est la parole de Dieu sous forme d'imprimé. Et je me fiche de ce qu'un homme vous dit. Ma Bible, la parole de Dieu dit, que toute parole d'homme soit un mensonge et la mienne soit vraie. Paul dit, quand un ange du ciel viendrait avec autre chose que ce qui se trouve ici, qu'il soit maudit. Jean 14h 12-13 Jésus dit du croyant, celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais, et vous en ferez aussi, parce que je m'en vais au Père. Et écoutez la façon dont il dit que ces choses seront faites au verset 13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Frère Branham a dit dans son sermon, l'unité d'un seul Dieu dans une seule Église 58-1221 soir 99. Et Dieu s'assied sur le trône de votre cœur dans sa chambre de contrôle, contrôlant vos émotions, contrôlant vos facultés, contrôlant vos conceptions, et faisant que lui et vous soyez un dans la communion et dans l'amour. Et Dieu vous remplit d'amour. Il vous remplit de puissance. Il vous remplit de l'Esprit. Il vous remplit de sa propre nature divine, et il change votre nature charnelle en sa nature à lui. Alors, par cela, vous devenez une nouvelle création en Christ. Or, trop d'hommes pensent qu'ils sont une nouvelle création en Christ, parce qu'ils peuvent citer le message, ou parce qu'ils prétendent croire le message. Écoutez, frère Branham, le prophète de Dieu confirme et dit, vous devez mourir à vous-même afin de naître de nouveau. Question et réponse COD 64-08-30 matin 218-354 Esther, que vos enfants doivent avoir une expérience pour avoir le Saint-Esprit? Si s'ils voient le message du temps de la fin, Esther ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Chaque personne doit avoir une expérience. Vos enfants peuvent seulement entrer de la même manière que vous. C'est la seule manière. Voyez? Il faut qu'ils naissent de nouveau. Il n'y a pas de petits enfants dans le royaume de Dieu. Ce sont tous des enfants. Il faut qu'ils aient ça. Il faut qu'ils aient une expérience avec Dieu pour entrer. Tout comme vous. Maintenant, j'espère que je pourrai répondre à ceci. N'ayez pas peur 63-06-07-72. Frère, cela n'est pas la doctrine de la Bible. Paul a trouvé un groupe de baptistes de pure race là-bas et il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ce n'est pas quand vous avez cru, mais après que vous ayez cru. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il s'agit d'une expérience personnelle que l'on fait. Et quand ce grand Dieu immuable envoie son message, ce dernier Néhémie chante jamais. Amen. Dès ce moment-là 62-07-1397, voyez ces prodiges de Dieu. certaines personnes le feraient. Mais juste à cause de la théologie, à cause du credo d'une église ou de quelque chose comme cela, vous vous éloignez et vous fuyez Dieu pour éviter de recevoir le Saint-Esprit. Laissez passer la pression 62-05-18-67 maintenant. Vous, Néhémie, pouvez pas venir par un certain credo ou quelque chose comme cela. Vous devez mourir pour y arriver. Vous devez y entrer, et mourir à vous-même et ressusciter. Et alors chaque parole de Dieu devient une réalité. Pouvez-vous vous imaginer un homme qui a le baptême du Saint-Esprit, qui a écrit la Bible, et puis dire, les jours des miracles sont passés? Pouvez-vous vous imaginer un homme, peu importe combien il est profondément impliqué dans la théologie, ou quoi d'autre, ni la parole de la Bible, que le Saint-Esprit a écrite, et dire que le Saint-Esprit est en lui? Luc 24:49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. N'est-ce pas ce que Jésus leur a dit de faire? Il leur a dit d'attendre. Ça signifie d'attendre jusqu'à ce que. Attendre jusqu'à quand? Non. Attendez jusqu'à ce que quoi? Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce ce que vous pourriez vous imaginer qu'ils disent, nous avons attendu assez longtemps? Nous avons attendu 9 jours entiers. Certainement que nous devons l'avoir maintenant. Je crois que nous l'avons. Mais il a dit jusqu'à ce que. Et c'est le problème avec les gens aujourd'hui. Ils ne sont pas disposés à attendre jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bon. Où est-ce ce que Esther prêchait à nos chers? Je pose la question parce qu'elle mérite d'être posée. La plupart des églises enseignent que la preuve d'être né du Saint-Esprit, c'est que vous croyez la doctrine de cette église. Mais ce n'est pas ce que notre prophète a enseigné. Il nous a enseigné si vous avez l'Esprit de Christ. Si Christ vit en vous, vous vivrez comme Christ. Vous parlerez comme Christ, vous agirez comme Christ et vous feriez les œuvres de Christ, parce que vous avez la pensée de Christ. Et frère Branham dit, écoutez le 62-07-1-25 et maintenant, avant que vous, Néhémie, puissiez être rempli du Saint-Esprit, vous devez d'abord mourir à vous-même, afin de naître de nouveau. Ayant des conférences 60-06-08-33, vous, Néhémie, pouvez pas plus vous laver du péché en vous faisant membre d'église et en prenant des credos, qu'un léopard pourrait ôter cet âge en les léchant. Non, monsieur. Plus il les lèche, plus ils deviennent éclatants. Vous devez mourir à vous-même, à vos propres pensées. Abandonnez-les. Et laissez le Saint-Esprit vous couvrir de sa présence et de sa puissance. David, le grand guerrier 55-01-839. Quand Dieu pourra de nouveau rassembler l'Église dans un commun accord au point de la revêtir de la puissance d'en haut là. Puissance pour quoi? Pour croire sa parole. Et la manifester. Allez dire à mes disciples 53-0405 et 183. Et avant qu'un homme Néhémie soit équipé par le Saint-Esprit, pas par l'instruction, pas par la théologie, pas par le fait d'être membre d'une église. Amen. Espace vide sur la bande, aide. Qu'il n'ait été à Jérusalem et soit rempli du baptême du Saint-Esprit, il n'est pas qualifié pour la chair. C'est vrai, en tant que missionnaire ou n'importe quoi d'autre. L'harmonie de l'unité 58-01-28-94. Un témoin doit connaître quelque chose. Un témoin doit avoir une expérience. Et vous, Néhémie, pouvez être un témoin de Christ tant que le Saint-Esprit Néhémie vous a pas baptisé. La foi 58-03-1545 du temps de notre Seigneur, avant de quitter la terre, dans Luc 24:49. Il a dit, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Maintenant, ce mot revêtir signifie mettre comme vous mettriez un vêtement. Mais ceci dit que vous mettrez la puissance, le dunami, la puissance qui fait des miracles. Vous le mettrez, comme on met un vêtement, parce que c'est une onction sur vous. Acte 1, 8 dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et remarquons. Il y avait un petit groupe de lâches, 120, dans une chambre haute. Et ils ont fait fermer les portes, parce qu'ils avaient peur des menaces des Juifs. Et puis tout à coup, il est intervenu un son du ciel comme un vent puissant, qui a rempli toute la pièce où ils étaient assis. Oh! Ils avaient peur quelques instants avant cela. Mais maintenant ils sont sortis sans peur en marchant. Ils sont sortis dans la rue en exaltant et glorifiant Dieu. Ils avaient eu une expérience, qui les avait mis en feu, qui pouvait brûler le monde entier en ce jour-là. Ils ont eu une expérience. C'est ce dont nous avons besoin. L'expérience accompagne la foi. 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment Néhémie nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 33 Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. 34 Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? 36 Selon qu'il écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la bougerie. 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature Néhémie, pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Éphésiens 1 nous dit qu'après que nous ayons reçu l'esprit d'adoption, Dieu veut nous faire connaître notre héritage et la puissance qui l'accompagne. Dieu rendant témoignage de ses dons 52:07-13-49 ainsi n'ayez pas peur. La peur est du diable. Tout ce que Jésus disait, n'ayez pas peur, constamment, n'ayez pas peur, est-ce exact? Toujours, n'ayez pas peur. Maintenant, Dieu Néhémie veut pas que vous ayez peur, il veut que vous croyiez. Rappelez-vous de l'histoire dans Jean 9, où les parents ont vu s'ouvrir les yeux de leur fils aveugle, et à cause de la peur que leur inspiraient les Juifs, ils n'ont pas témoigné quant à qui les lui a ouvert. Et n'est-ce se passe au même démon qui contrôle toujours les églises aujourd'hui? Prétendant croire le prophète de l'heure, mais interdisant aux gens dont ils sont les pasteurs d'examiner la doctrine que William Branham a enseignée au sujet de la présence de Christ et de la relation entre le Père et son Fils, parce que leur camp n'y adhère pas. Maintenant, j'aime le culot dont ce jeune homme a fait montre à six pharisiens qui rejetaient Christ. Pour rien au monde, il n'allait minimiser l'importance de ce qui venait d'arriver dans sa vie. Lisons-le. Jean 9h24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » 25. Il répondit, « S'il est un pécheur, je l'aime, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » 26. Il lui dit, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» 27. Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» 28. Ils l'injurièrent et dirent, « Cester, toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. » 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous n'y savons d'où il est. 37. Homme leur répondit, « Il est étonnant que vous n'y sachiez d'où il est. Et cependant il m'a ouvert les yeux. » 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. 32. Jamais on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né. 33. Si cet homme Néhémie venait pas de Dieu, il Néhémie pourrait rien faire. 34. Ils lui répondirent, tu es Aïn et tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Oh! Comme ce démon n'aime pas qu'on lui rétorque les Écritures. Il n'aime pas être enseigné. Il n'aime pas être démasqué par la parole de Dieu. Mais j'aime l'attitude de cet homme. Il a vu ce qui venait d'arriver à ses parents et comment ils étaient lâches en évitant de parler de cette grande chose qui était arrivée à leur fils. Et je suis sûr que son indignation de juste s'est embrasée de voir ses parents être coincés et de les voir assigner la plus grande chose qui était arrivée dans leur famille depuis sa naissance. Alors, il a parlé franchement à ses chefs religieux et leur a fait savoir qu'il n'allait pas redouter leur langue acerbe comme ses parents en avaient fait l'expérience. Et il a fait sortir l'épée de la parole et leur a dit ces quatre vérités au point où ils ont grincé des dents et l'ont chassé de l'église. Ils l'ont excommunié parce qu'il n'était pas d'accord avec le pasteur, pour ainsi dire. Maintenant, je voudrais savoir où dans la Bible un homme peut être chassé de l'église parce qu'il est en désaccord avec le pasteur ou les anciens de l'église. Il existe une certaine chose appelée l'ordre de l'église. Et il existe une manière de traiter avec quelqu'un qui sème le doute. Mais qu'une personne dise qu'il n'est pas d'accord, on devrait lui donner l'occasion de montrer au pasteur, par la parole de Dieu, là où il a tort. Pourquoi nous n'y sommes pas une dénomination 5-8-09-2-7-16. Les gens viennent ici à l'église, et ceci devient leur église. S'ils désirent venir durant toute leur vie. 17. Et ils peuvent venir ici et être en désaccord avec tout ce que nous prêchons. Cester tout à fait en ordre. Vous. Toujours. Tant que vous êtes chrétien, vous avez la communion et une main tendue, comme les autres. Voyez-vous? Si je disais que je croyais au baptême d'eau, par immersion et que vous croyez dans l'aspersion, et que vous vous en teniez à cela, nous resterions comme nous étions lorsque nous étions tous deux d'accord. Il se peut que nous Néhémie voyons pas les choses de la même façon sur le même angle. Mais tant que vous êtes un frère ou une sœur chrétienne, vous êtes tout à fait les bienvenus. Voyez-vous? Tout le monde. Ainsi, si frère Branham était assez ouvert pour accepter dans son église des gens qui étaient en désaccord avec tout ce qu'il enseignait, alors qui sommes-nous pour faire autrement? Je n'ai dit pas que nous devrions inviter un groupe d'incroyants à l'église pour la remplir. Ce serait ridicule. Mais toute personne qui viendrait s'asseoir, soit ses yeux en fin de compte vont s'ouvrir, soit il ne va pas rester pour très longtemps, parce que ce qu'il va entendre, en fin de compte, le fera entrer ou sortir. Mais Néhémie parle même pas de l'incroyant ici, Il parle de notre attitude par rapport à la nature de la colombe du Saint-Esprit. Jésus-Christ est le même 61-05-16-73 rappelez-vous. Sondez les Écritures. Apportez vos papiers et notez les versets que je cite. Si les mis sont pas exacts, vous êtes solennellement obligé de venir me montrer. Je n'ai mis veut pas avoir tort. Mais je n'ai pas aussi longtemps que la Bible le dit et que Dieu le confirme. Un homme peut dire tout ce qu'il veut, c'est un homme. Mais quand Dieu parle, que personne n'ose en douter. C'est la séparation éternelle de sa présence pour toujours. Ainsi, nous le laissons simplement à Dieu. Ce n'est pas à nous-mêmes de déterminer qui est qui. Et admettons-le, la semence du serpent Néhémie veut pas qu'on enseigne la vérité. Puisque dans Jean 8h37 Jésus a dit aux chefs religieux qui le rejetaient, ce pourquoi ils Néhémie peuvent pas entendre la vérité de la parole. C'est parce qu'il n'y a pas de place pour la parole de Dieu en eux. Et puis au verset 43 Jésus a dit, pourquoi Néhémie comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous Néhémie pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et Néhémie se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Nous voyons d'où vient cet esprit qui essaye de contrôler les gens par le peur plutôt que de leur enseigner la vérité de la Bible et de les laisser prendre leurs propres décisions par rapport à la Bible. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 1, Weymouth Translation, la traduction de Weymouth le traduit ainsi, un par conséquent, étant engagé dans ce service et étant conscient de la miséricorde qui nous a été montrée, nous n'y sommes pas des poltrons. De non. Nous avons renoncé au secret, qui trahit un sentiment de honte. Nous n'usons pas d'habiles stratagèmes, ni n'y falsifions le message de Dieu. Mais par une déclaration claire et nette de la vérité, nous nous évertuons à nous recommander, en présence de Dieu, à chaque conscience humaine. Et la West Translation, la traduction West, dit, nous avons renoncé aux choses cachées et honteuses. Nous n'organisons pas nos façons de vivre dans la sphère de la roublardise, ruse, astuce, ni Néhémie frelatons la parole de Dieu par un mélange de l'erreur, mais au moyen d'une déclaration publique de la vérité, nous nous recommandons à chaque diversité de conscience des hommes devant Dieu. Le problème que nous avons aujourd'hui, même parmi nous qui sommes dans ce message, c'est que les gens dans les églises Néhémie jugent pas les autres par le genre de vie qu'ils vivent devant Dieu, mais ils sont plutôt jugés par s'ils sont fidèles aux autorités qui sont dans leur église. De son sermon, le filtre d'un homme qui réfléchit, 65-082 soir P, 32 frère Branham a dit, 76 non, ce n'est pas une femme qui réfléchit. Si elle réfléchissait, elle saurait que ce n'est pas l'Église qui va la juger au dernier jour. L'Église la juge maintenant, de par son adhésion, sa fidélité au cercle dont elle est membre, et aux associations. Il la juge maintenant d'après ça. Mais Dieu va la juger au dernier jour. Donc, elle n'y réfléchit pas. Dans Prouvons sa parole 64-08-1659 frère Branham dit, l'homme Néhémie vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Quoi? Comment vit-il? Par, eh bien, si vous prenez juste une partie de la parole de Dieu, il vivra. Maintenant, ce n'était pas ce qu'il a dit. Avez-vous remarqué? T-O-U-T-E, toute parole, comment vit-il? Eh bien, il, est un membre de l'Église. Il croit tout sauf ça, il est toujours mort. Le comprenez-vous? Ils n'aiment ils peuvent vivre que de toute la parole, qui sort de la bouche du prêtre, de l'évêque, du cardinal, du pasteur, de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment savons-nous que c'était la parole de Dieu? Il a dit, puis il l'approuve. Il prouve sa parole. Remarquez. Puis, s'il en estère ainsi, votre confession Néhémie vous fera pas vivre. Votre adhésion à une église Néhémie vous fera pas vivre. Ainsi quand n'importe quel chef religieux vous dit que vous devez croire ce qu'ils disent juste parce qu'ils le disent. Car après tout ils font partie du quintuple ministère, donc vous devez les croire. Laissez-moi vous dire ceci, c'est tellement enfantin et superficiel que c'est plus mince que le bouillon préparé à partir d'un poulet qui est mort de faim. Vous n'êtes pas obligé de croire juste parce que votre pasteur vous dit de croire. Vous le croyez parce que la parole de Dieu le dit. Et donc, tout ministère qui a utilisé la peur pour vous contrôler n'est pas de Dieu. Dieu lui-même nous promet qu'il n'ait nous a pas donné un esprit de peur mais un esprit saint. De Timothée 1, 7 car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Par conséquent, si vous avez peur de l'homme plus que vous avez peur de Dieu, alors vous n'avez pas ce que Dieu a dit qu'il vous donnerait. Dans 1 Jean 4:18 nous lisons la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et la pénalité de la peur est que quand vous avez peur, vous commencez à vous cristalliser, et vous cessez d'avancer avec Dieu, et dans quoi Dieu vous introduit. La peur est un dangereux instrument du diable, parce qu'elle a une pénalité. Quand les gens ont peur, ils sont liés par cette peur. Nous avons lu dans 1 Jean 4, 18 mais l'amour parfait ou mature bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, c'est lié au fait de se ficher et de se cristalliser dans ses pensées. Vous voyez, dans la Bible, nous lisons où Joseph a été fiancé à Marie, mais quand il a appris qu'elle était enceinte, combien même elle lui a dit comment ça s'est produit, que Dieu lui-même l'a couverte de son ombre. Cependant sa peur l'a arrêté, et il pensait la répudier secrètement. En d'autres termes, le châtiment de la peur lui a fait arrêter le plan qu'il avait de l'épouser. Joseph a eu peur que Marie n'ait pas été fidèle, et à cause de cette peur il a pensé arrêter le mariage. Alors, Dieu a envoyé son ange à Joseph, et il lui a dit, « N'aie pas peur de prendre Marie pour femme. » Qu'est-ce que la peur a fait à Joseph? Elle lui a fait douter que Dieu voulait qu'il épouse Marie. Et elle lui a fait cesser d'avancer avec le plan de Dieu pour sa vie. Luc 21, 25-26 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui n'aimés sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. 26 Les hommes auront dans l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Remarquez, la Bible nous dit que les hommes verront des choses qui causeront la perplexité qui estère un sentiment de doute et d'inquiétude qu'ils n'auront pas de voie pour échapper. Et alors qu'estère ce qui suit? La peur. Alors la peur suit peu de temps après. Dans 1 Roi 18h21 Élie dit au peuple. Et dit, version de la Bible autorisée, combien de temps balancerez-vous entre deux opinions? Combien de temps bloquerez-vous et boiterez-vous dans votre progression? Version amplifiée. Combien de temps allez-vous bloquer et clopiner entre deux points de vue? Nif. Combien de temps hésiterez-vous entre deux opinions? Nas. Combien de temps hésiterez-vous entre ces deux opinions? Ainsi vous voyez que la peur causera de grands dégâts dans votre marche avec Dieu, parce qu'elle vous fait arrêter d'aller de l'avant avec lui. Et vous savez, selon 1 Jean 7 Si vous marchez dans la lumière et Esther dans la lumière, vous avez non seulement une communion mutuelle mais le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout votre péché. Aussi longtemps que vous marchez dans la lumière, vos péchés sont couverts et vous avez la communion avec celui qui Esther dans la lumière parce qu'il Esther la lumière. Et si vous laissez votre peur prendre contrôle de vous, votre focus sera sur ses peurs et pas sur celui qui Esther dans la lumière. Par conséquent, tout ministère qui met le peuple dans un état de peur n'Esther pas de Dieu. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, mars 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.